cette conférence sur l'actualité théologique de Jean Calvin. Je remercie la médiathèque de nous accueillir dans ses locaux et je remercie le professeur Paul Wells d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour nous présenter ce sujet. Donc, Monsieur Wells est professeur de théologie systématique à la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence et il en est aussi le doyen. L'actualité théologique de Jean Calvin, évidemment, la question se pose en ce 500e anniversaire où on a parlé beaucoup de Jean Calvin. On a dit énormément de choses sur Jean Calvin, sur sa vie, sur le personnage qu'il était, sur la légende noire de Calvin. On a tenté aussi de le montrer sous un jour nouveau, plus humain, plus proche. Un Calvin rieur, comme Jean-Luc Mouton a essayé de le montrer. Un Calvin polémiste, Bernard Cotteret nous a entretenu lors de la première conférence de ce sujet. Et nous allons donc ce soir tenter de présenter l'autre facette, sans doute la facette, à mon avis, principale et peut-être bien souvent oubliée aussi en cette année de Jean Calvin. Évidemment, sa doctrine, sa théologie, qui est parfois, malgré tout, quelque peu laissée de côté. Alors, Jean Calvin, au départ, ne se destinait pas à la théologie. Hein. Jean Calvin devait être clerc. Et il abandonne finalement ses études, c'est son père qui le détourne de ses études en vue d'être clerc pour devenir et pour faire des études juridiques, des études de droit. Donc Calvin n'est pas destiné à être un théologien et c'est lors de cet événement majeur dans sa vie hein, qu'il qualifie lui-même de conversion entre 1533 et 1534 hein, selon les datations traditionnelles que Calvin, finalement, va s'orienter, du coup, de manière assez naturelle et, pourrait-on dire, assez légitime, vers la théologie. Alors, Calvin est un des grands théologiens, sinon le grand théologien réformé, selon Olivier Millet. Hein. Il est aussi, selon le même Olivier Millet, hein, à l'origine, dit-il, du monde moderne. Donc un homme extrêmement fécond par sa pensée, l'ensemble de sa pensée, et en particulier par sa pensée théologique. De sorte que cette pensée va insuffler un vent nouveau, on pourrait dire, un nombre de prédicateurs, nombre de réformés, français ou autres, hein, qui vont s'inspirer de la théologie de Calvin. Théologie qui aborde de nombreux aspects, l'inspiration, l'autorité de la Bible, avec notamment le développement de Calvin sur le témoignage intérieur du Saint-Esprit, sa christologie, le Christ médiateur, son ecclésiologie aussi, la mise en place hein, de la structure de l'Église, ce qui avait fait dire à Pierre Chaunu hein, que c'est la réforme calvinienne qui sauve la réforme luthérienne, car Calvin va donner sa structure, son squelette, hein, son organisation à la réforme qui se met en place donc au début du XVIe siècle, et de la sorte, il sauve la réforme luthérienne. Calvin sera repris sans cesse, je l'ai dit, repris par des hommes comme Wellesley, comme Whitfield, des hommes aussi comme Gascon, ici, dans la région, hein, à Anduze, au début du XIXe siècle, qui s'inspirent de Calvin, et puis aussi des hommes, évidemment, comme Émile Doumergue, hein, qui redécouvre Calvin, et plus récemment, plus proche de nous, on pourrait parler aussi de Le Cerf, qui est un des pionniers de la redécouverte de Calvin à la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle, sans parler évidemment de Barthes, qui aussi était un grand lecteur de Calvin. Donc vous voyez que l'héritage de la pensée théologique de Calvin embrasse nombre de personnages, que ses influences ont été nombreuses et que malheureusement, eh bien, parfois, Calvin fait aussi l'objet de récupération. Et c'est pourquoi il me semble que cette conférence ce soir a pour but aussi d'éclairer quel est au fond véritablement l'héritage de Calvin et quelle, non pas quelle récupération on peut faire de la pensée théologique de Calvin, car très vite on peut utiliser Calvin au fond à son profit, sortir Calvin du contexte, sortir des phrases de Calvin de leur contexte pour les utiliser pour défendre nos propres opinions, nos propres pensées, voire notre propre théologie. Donc je laisse la place maintenant à M. Wells qui va nous entretenir de ce sujet et après quoi nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de poser des questions. Voilà, merci.
Alors merci beaucoup pour votre invitation ce soir. Et comme vous l'entendez déjà, Je n'ai pas un accent méridional, et ni marseillais, ni cévenol. Je suis d'origine anglaise, et vous pouvez vous poser la question, pourquoi les Anglais osent se mêler à notre patrimoine français? Mais vous savez, si les Français peuvent aller en Afrique du Sud avec un coup de main, moi je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas toucher à Calvin. Hein? Rien n'est sacré. Alors, j'ai commencé à lire Calvin à l'âge de 18 ans, quand j'étais à l'université en Angleterre. Et je faisais des études en français, mais aussi dans l'histoire de la Réforme. Et pendant ma première année d'études, je ne savais pas bien ce que je croyais sur le plan chrétien, parce que je venais d'un milieu un peu fondamentaliste, de la classe ouvrière, et j'étais un peu perdu à l'université. Et un jour, dans notre cours d'histoire, le professeur a parlé de la réforme de Luther et Calvin. Je me suis dit, ces gars ont des choses intéressantes à dire. Alors, j'ai passé toute ma première année d'études à lire Luther et l'institution chrétienne de Calvin. Et à la fin de cette année, j'ai failli rater mes examens, mais je savais ce que je croyais. Et cette foi, je l'ai gardée tout au long de ma vie, jusqu'à maintenant. Alors, ce soir, je voudrais vous parler de Calvin de deux ou trois façons différentes. Tout d'abord, je vous ferai une petite introduction à Calvin lui-même. Et puis, je vous dirai pourquoi il est important dans son contexte, quel est son grand souci. Et puis, à travers les textes de Calvin que nous allons voir ensemble, je voudrais vous présenter ce qui est central dans la pensée de Calvin. Quel est le centre de la pensée de Calvin? Quelle est la chose importante? Quel est le moteur pour lui? Et ce qui est central pour lui, c'est l'héritage qu'il nous laisse. Avec Mademoiselle de Védrine, je suis un des deux traducteurs de cette institution chrétienne en français moderne, et les citations que je ferai viendront de cette version. Pourquoi les Français ne connaissent pas Calvin? Tout simplement parce que entre la dernière édition de ce livre en 1562 et 1955, quand Pierre Marcel et Jean Cadier ont publié une édition un peu retouchée de ce livre en trois volumes, il n'y avait que trois éditions en français de ce livre de l'institution chrétienne. Pourquoi? Parce que c'était un livre à l'index. Une de ces éditions était une édition académique, donc pas disponible au grand public. Une autre de ces éditions était publiée à Berlin, en Allemagne, et la troisième édition était publiée uniquement au début du XVIIe siècle. Après, à cause de la situation en France, l'institution chrétienne a été perdue de vue. Alors que dans les pays protestants, l'institution chrétienne a connu des centaines d'éditions et toutes sortes de présentations différentes. Alors, qui était Calvin? Voici le jeune Calvin. C'est un jeune Stimmi. Ici, il a à peu près 30 ans. Il vient de publier la première édition française de l'institution chrétienne. Il a donc 32 ans à peu près. Il est à Genève et vous voyez, il a l'œil vif et les traits calmes et ouverts. Alors que c'est intéressant, ce n'est pas une photo. Et celui-ci n'est pas une photo non plus. Mais voici Calvin vieux. C'est le tableau qu'on connaît de Calvin très souvent. Et ici, vous voyez la différence. Ici, Calvin est à peu près 10 ans de plus jeune que moi aujourd'hui. Hein, vous voyez son visage. Et entre ces deux, il y a 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Qu'est-ce que cela veut dire sur la personne? Cela veut dire que cette personne a connu une vie très difficile. Alors, Honoré de Balzac a raconté dans un de ses livres, Catherine de Médici, que Calvin, vers la fin de sa vie, était tellement corpulent qu'il ne pouvait pas marcher au temple de Saint-Pierre de Genève pour faire une prédication et qu'il devait être porté tellement il était gourmand et corpulent. Le contraire est vrai, hein? Parce que Calvin ne pouvait pas marcher jusqu'à Saint-Pierre de Genève pour faire sa prédication parce qu'il était tellement épuisé. Il s'est fatigué par tout le travail qu'il a fait. Et son visage ici, je pense, nous montre une vie qui n'était pas du tout facile, une vie difficile. Ici, sur ce visage, voici ce qu'on peut lire. La fatigue. Oui, la maladie. Calvin est mort épuisé. La tristesse. Pourquoi la tristesse? Parce que il y avait toujours une opposition énorme contre la pensée de Calvin et contre son œuvre. La tristesse aussi parce que sa France bien-aimée, il ne l'a pas revue depuis 25 ans. Calvin a vécu sa vie en exil. Il n'a jamais revu sa patrie quand il a dû le quitter parce que sa vie était menacée. Et c'est quelqu'un de triste, quelqu'un qui souffre beaucoup. Je vois un peu de résignation dans ce visage, hein? Mais je vois aussi un certain calme. Calvin avait énormément d'ennemis et ses ennemis se donnaient à cœur joie. Voici un tableau fait par un Italien de Milan, Arcimboldo, qui est un peu de la génération suivante de Calvin. Et vous voyez ce tableau qui est au musée de Prague aujourd'hui, visage de Calvin qui est fait de toutes sortes d'animaux, de queues de poisson et je ne sais pas quoi d'autre. Hein. Et 200 vivants en a généré le mythe du Calvin non-saint. On a fait de Calvin quelqu'un qui était détestable à cause de ses prises de position et à cause de sa théologie. Et Calvin a dû beaucoup souffrir de ceci. Et le mythe du Calvin non-saint est venu de Genève même. Après, c'était les luthériens, c'était les zwingliens, c'était les jésuites qui ont repris les critiques de Calvin et ont inventé toutes sortes d'histoires sur Calvin, y compris l'histoire infâme de la sodomie de Calvin quand il était jeune. Hein? Et donc, la vie de Calvin était une vie de souffrance. Juste un rappel de quelques dates importantes. Calvin est la deuxième génération de la Réforme. Vous connaissez tous le nom de Martin Luther. Et Calvin était contemporain d'Ignace de Loyola. qui a écrit ses exercices spirituels pendant que Calvin faisait ses études. Les historiens se débattent pour savoir si Calvin et Ignace se sont rencontrés à Paris. C'est possible, hein? Mais nous ne savons pas avec certitude. Calvin, en 1532, a commencé une vie d'intellectuel. Et ceci est très important, parce que au début de la vie de Calvin, on trouve le souci de la clémence ou de la justice. Et à la fin de sa vie, on le retrouvera aussi, ce souci. Entre 1532 et 1536, Calvin s'est converti. Il a dû partir, quitter la France. Il a publié en 1936 la première édition de l'Institution chrétienne. C'est comme un petit livre de poche qu'on peut porter sous le manteau, hein, avec une dizaine de chapitres, écrits en latin d'abord, traduits en français. Et ce livre, publié en 1536, Calvin n'a cessé de l'augmenter, d'y ajouter, et un petit livre de poche est devenu ce livre ici, de 1500 pages aujourd'hui. C'est intéressant de savoir que Calvin n'a jamais rien changé, il n'a rien enlevé, il n'a pas changé d'idée. Dès 1536, ses idées étaient déjà en place. Il les a développées. Et en rouge, vous voyez les publications importantes de ce livre qui était publié en 1559 dans sa dernière édition en latin, et puis en 1560 et en 1562 en français. Et Calvin est aussi l'auteur de beaucoup de livres, comme nous verrons. Il a écrit la plupart de la Confession de foi de La Rochelle, qui est la Confession de foi des Églises réformées, sauf les deux premiers articles, c'est l'œuvre de Calvin. Voici quelques dates importantes dans la vie de Calvin aussi. Son épouse est morte en 1549. Monsieur et Madame Calvin avaient un enfant qui est mort en bas âge, et Calvin était le père adoptif des deux enfants de Hydelette de Bourg qui étaient veufs. Hein? Et en paix dans sa femme, vous voyez une bonne vingtaine, presque une vingtaine d'années, 15 années avant sa mort, Calvin est resté célibataire. Il ne voulait pas se remarier comme c'était la coutume à l'époque. Il s'est consacré pendant ce temps à son travail, mais il a toujours regretté la mort de son épouse et il ne s'en est jamais remis. Et puis, vous voyez, il est mort à Genève en 1564, donc à l'âge de 53 ans. Et cela après une vie de travail intense. Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que Calvin, lui, a vécu sa vie en exil, comme j'ai dit. Il est devenu citoyen de Genève uniquement quelques années avant sa mort. Et il faut se souvenir de cela quand on parle, comme Rabelais le fait, de Calvin, le dictateur de Genève. Hein? L'œuvre théologique de Calvin est très variée. Et nous allons le voir. Il y a essentiellement trois parties. L'Institution chrétienne, les commentaires bibliques et ses écrits occasionnels, polémiques et ses lettres. Les lettres de Calvin nous montrent un Calvin qui savait tout ce qui passait à son époque. Il avait de la correspondance avec toutes sortes de personnes, avec des rois, avec des nobles, mais aussi avec des gens simples, avec des églises. Il y a des lettres de Calvin à l'église d'Orange, à l'église d'Aix-en-Provence, à l'église de Nîmes aussi. Et Calvin était un grand correspondant. Il devait passer une heure et demie, deux heures tous les jours à écrire à ses contacts un peu partout. Et Calvin savait tout ce qui se passait en Europe de son époque. Ceci est important parce que cela milite contre l'idée du Calvin introverti. Si Calvin était timide et une personne naturellement angoissée et coléreux, quand on avait Calvin comme ami, on avait un ami à vie. Il était très fidèle dans ses contacts avec beaucoup de personnes. L'institution chrétienne, ce livre, est considéré l'œuvre maîtresse de Calvin, mais quelle est sa fonction dans le contexte de l'ensemble de la vie de Calvin et dans l'ensemble des choses que faisait Calvin? Que pensait Calvin de l'institution chrétienne? Que voulait-il faire avec ce grand livre? Alors, voici une citation de la préface de l'institution chrétienne de 1541. Et ceci nous dit tout, ou presque, sur les intentions de Calvin. Et je soulignerai deux ou trois choses dans cette citation tout à l'heure. Mon seul but a été de bien préparer et d'instruire ceux qui voudront s'adonner à l'étude de la théologie. Mon objectif a été de leur faciliter l'accès à l'Écriture sainte afin qu'ils se familiarisent avec elle, la comprennent mieux et qu'ils demeurent sans brancher sur le bon chemin. Je pense en effet avoir synthétisé les différents éléments de la religion chrétienne après les avoir mis dans l'ordre voulu, de telle manière que celui qui aura bien compris ma méthode d'enseignement pourra aisément former son jugement et déterminer ce qu'il doit chercher dans l'Écriture et dans quel objectif. C'est pourquoi il n'a guère besoin dans mes commentaires où je présente les livres de l'Écriture sainte que je développe longuement les sujets traités dans le présent ouvrage. Celui-ci est un exposé général destiné à guider ceux qui désirent être aidés. L'institution chrétienne n'est pas un livre de théologie systématique, comme la Somme théologique de Thomas d'Aquin, ou comme d'autres ont écrit après. L'institution chrétienne de Calvin est un livre catéchétique, c'est un manuel qui va avec les commentaires bibliques. Et l'intention de Calvin est double. En premier lieu, de faciliter l'accès à l'Écriture. Ce qui compte pour Calvin n'est pas la théologie, c'est la lecture de la Bible. Et ceci, suivant Martin Luther, dans bien le contexte de la réforme protestante. Ici, vous voyez le sola scriptura, pourquoi l'Écriture est centrale dans la vie des protestants. Et Calvin veut avant tout, non pas qu'on fasse la théologie, mais qu'on comprenne l'Écriture. Et ce qu'il dit un peu plus loin souligne ce point. On doit pouvoir aisément former son jugement et déterminer ce qu'il doit chercher dans l'Écriture. Ce n'est pas le prêtre qui cherche dans l'Écriture ce que vous devez croire, c'est le jugement privé, c'est la conscience de l'individu qui cherche dans l'Écriture la vérité. Et ici, nous avons le début de la modernité, dans ce sens de l'importance de l'individu et la conscience de l'individu pour chercher la vérité. Nous verrons dans quelques instants que nous avons besoin d'une aide pour chercher cette vérité. Et cette aide, c'est le médiateur, Jésus-Christ. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes appelés à former notre jugement. Et ici, nous avons le début, je pense, ou un des débuts de l'esprit moderne. L'écriture et le jugement individuel et personnel est important pour Calvin. Il veut que les gens lisent l'écriture pour eux-mêmes. Et c'est pour cette raison que l'institution chrétienne n'est qu'un accompagnement à ses commentaires bibliques, et on doit dire que les commentaires bibliques sont pour Calvin plus important que l'institution chrétienne, hein, parce que ce sont des commentaires de la Bible. Alors, maintenant, nous arriverons à cette institution chrétienne pendant quelques minutes et nous allons voir quelle est la perspective et l'intérêt fondamental de ce livre pour Calvin et pour son temps. Et ici, vous voyez la page de garde de l'institution chrétienne de 1541, avec ici cette phrase que j'ai transcrite à côté, avec la préface adressée au très chrétien roi de France, François Ier de ce nom, par laquelle ce présent livre lui est offert pour confession de foi. Calvin s'adresse au roi de France. Pourquoi? Parce qu'il veut que le roi de France soit un roi juste vis-à-vis de ses sujets. Il veut que le roi reconnaisse la liberté de la religion protestante. Et il présente ce premier livre de l'institution chrétienne en 36, dédicacé au roi de France pour que le roi comprenne que les protestants ne sont pas des anarchistes, hein, qui ne sont pas des séditieux. Et Calvin donne dans sa préface une exhortation au roi pour être un roi juste qui reconnaît la recherche légitime de ses sujets sur le plan de la religion. Est-ce que François Ier a jamais lu l'institution chrétienne? Nous ne le savons pas, je crois que non. Comme les rois de l'époque, il était occupé par la guerre, la chasse et la bonne chère, et par ses maîtresses. Et je pense que il avait, avec ces trois choses, suffisamment à faire, hein, sans se soucier d'un petit Jean Calvin. Ça, donc, l'institution chrétienne commence avec le souci de la justice. Les évangéliques ne sont pas des séditieux. La foi est apostolique et donc que Calvin demande, en quelque sorte, la reconnaissance pour eux. Mais le livre 4 de l'institution chrétienne, que nous verrons tout à l'heure, est en un sens le plus important livre de l'institution. Et dans ce livre 4 de l'institution, Calvin prend position contre la tyrannie. Ça peut nous être une chose très étonnante, mais Calvin milite dans le livre 4 contre la tyrannie de l'Église et contre la tyrannie des pouvoirs politiques quand ils abusent du pouvoir politique. Hein? C'est quelque chose d'inattendu. Hein? D'après les images que nous pouvons avoir de Calvin et les choses dont nous entendons au sujet de Calvin. Et Calvin critique dans le livre 4 de l'institution les institutions de l'Église et l'État qui s'opposent à la liberté dans la pratique de la foi. Et il a écrit dans le dernier chapitre de l'institution chrétienne une phrase qui est lourde de conséquences. Calvin n'a pas tiré les conséquences de cette phrase. Loin de là, je pense qu'il ne pouvait pas. Mais d'autres après lui en tiraient les conséquences. Et ici, il parle de la justice pour le peuple. Il parle du pouvoir social et du pouvoir politique. Et il dit, s'il existait à notre époque des magistrats établis, ou des représentants établis pour la défense du peuple, afin de réfréner la trop grande ambition ou la liberté des rois, je ne les défendrai pas du tout de s'opposer et de résister à l'intempérance ou à la cruauté des rois dans l'exercice de leur fonction. J'estime même que s'ils voyaient combien les rois maltraitaient abusivement le pauvre peuple et faisaient comme si cela n'était pas, cette attitude devrait être accusée de parjure et de trahison vis-à-vis de la liberté du peuple, alors qu'ils devaient se reconnaître en avoir été ordonnés les protecteurs par la volonté de Dieu. Cette phrase est capitale. C'est le démarrage de la notion de la résistance au pouvoir abusif du roi ou du souverain politique. Et 50 ans après Calvin, un Allemand vivant aux Pays-Bas, Johannes Althusius, a écrit un grand traité de politique intitulé Politica. Et dans un chapitre de ce livre, Althusius défend, suivant Calvin, l'idée qu'on peut résister au roi, et même si le roi ne veut pas fléchir dans sa tyrannie, on peut le mettre à mort. Hein? 50 ans plus tard encore, les Anglais ont coupé la tête à Charles Ier et ont établi un parlement qui était un des avant-coureurs du développement démocratique en Occident. Calvin est donc contre toute tyrannie. Il défend la liberté de la conscience individuelle et aussi la liberté sur le plan politique. C'est un côté de Calvin qu'on ne connaît pas. Mais déjà les disciples de Calvin, Théodore de Bèze, et les gens qui ont suivi immédiatement après Calvin, ont prôné la résistance physique contre le pouvoir abusif. Ceci a conduit au guerre de la religion. Et je pense qu'une des raisons de la tristesse de Calvin vers la fin de sa vie, c'est qu'il ne souhaitait pas ces guerres de religion. Hein? Je pense que Calvin, contrairement à certaines personnes, s'est beaucoup adouci vers la fin de sa vie, alors que ses disciples lisaient toujours les traités polémiques du Jean Calvin. Hein? Et à partir de 1555, Calvin a perdu contrôle de ses troupes, hein, réformées et protestants en France et en Europe. Et c'était Théodore de Bèze qui était le meneur de jeu. Hein? Et c'est Théodore de Bèze qui a établi, avec d'autres disciples de Calvin, les églises réformées en France. Il faut savoir que la première église réformée en France était établie vers 1555, donc uniquement 10 ans avant la mort de Calvin. Et en 1562, il y avait à peu près 2000 églises réformées en France. Ça s'est poussé comme des champignons. Et pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres qui sont venus après Calvin qui avaient la génie de l'organisation et ils ont regroupé les disciples de Luther, les disciples d'Erasme, les disciples de la Réforme en Église. Donc Calvin est contre les abus et s'oppose donc ainsi pour lui la question. Comment est-ce qu'on va vivre en tant que chrétien pour trouver la vraie religion et la vraie foi? Hein? Si l'Église abuse de son pouvoir, si les rois et les politiques abusent de leur pouvoir, comment est-ce qu'on trouve la vraie liberté sur la terre en tant qu'individu? Hein? Et pour Calvin, cette question comment est-ce qu'on peut connaître Dieu et vivre selon Dieu sur cette terre. Et ici, nous allons le voir, Calvin a une réponse particulière, et c'est une réponse personnelle et individuelle. Et je vais essayer d'expliquer ça à travers la structure de l'institution chrétienne. Vous voyez, l'institution chrétienne suit la structure générale du symbole des apôtres, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais vous voyez comment Calvin dispose les choses. Dieu le Père et Jésus-Christ, c'est les deux premiers livres de l'institution chrétienne. Et ça fait à peu près 30% du total. Le livre 3, de la manière de participer à la grâce de Jésus-Christ, quels sont ses fruits pour nous et quels sont ses effets, c'est l'œuvre du salut, la foi, le Saint-Esprit. C'est 30% aussi important que les sections sur Dieu et Jésus-Christ. Et puis, le quatrième livre, c'est 40% des moyens extérieurs ou aides dont Dieu se sert pour nous conduire à Jésus-Christ, son Fils, et pour nous garder en lui. Alors, si vous regardez cela, vous voyez que 30 et 40, ça fait 70, même si je n'ai jamais réussi un examen de maths de ma vie, 70% de l'institution chrétienne concerne le salut individuel et comment nous pouvons trouver la paix avec Dieu. L'Église n'est qu'une aide extérieure, un moyen pour nous soutenir dans notre recherche. Et Dieu se sert de ce moyen extérieur pour nous conduire à Jésus-Christ. Donc, 40% et 30%, 70% concernent l'individu. Mais l'individu, dans quel contexte? L'individu est Jésus-Christ. L'individu est Jésus-Christ dans son salut. Et le livre 2, l'individu et Jésus-Christ, le Rédempteur. Le chapitre central, ou l'axe de l'institution chrétienne, c'est le chapitre 2, le livre 2, chapitre 12, où Calvin présente ce Jésus-Christ comme le médiateur. Et c'est à cause du médiateur que nous pouvons, en tant qu'individus, trouver le salut et vivre notre vie sur la terre en étant gardés en Jésus-Christ. Et donc, le centre de la théologie de Calvin, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, le livre 1 sur Dieu le Créateur, il y en a un peu. Livre 2, déjà Jésus-Christ paraît. Livre 3, Jésus-Christ est au centre. Livre 4, Jésus-Christ est au centre aussi. Et donc, l'individu, pour Calvin, pour connaître Dieu, pour connaître la vraie liberté, doit être conduit à Jésus-Christ et, nous dirions aujourd'hui, à une relation individuelle et personnelle de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Ce n'est pas là le langage de Calvin. Ce n'est pas son époque. Nous le dirions ainsi aujourd'hui, mais c'est en réalité ce que Calvin veut dire. Alors maintenant, nous voyons qu'au cœur de la théologie, ce n'est pas la prédestination qui est au cœur de la théologie de Calvin. Prononcez le mot de Calvin et tout le monde dira la prédestination. Ouvrez un manuel scolaire, Calvin et la prédestination. C'est un livre publié cette année, Calvin et la prédestination. Mais la prédestination n'était pas la doctrine de Calvin. Calvin ne dit rien d'original à ce sujet. Il ne fait que reprendre ce que Thomas d'Aquin a dit devant lui, ce qu'Augustin a dit avant Thomas d'Aquin, et ce que d'autres pères de l'Église ont dit à ce sujet. Calvin n'est pas original à ce sujet. Il est sur la médiation de Jésus-Christ. Et la prédestination n'est pas dans le premier livre, la doctrine de Dieu. La prédestination est ici, cachée dans le troisième livre, chapitre 21, après un long chapitre sur la prière et sur la relation avec Jésus-Christ par la prière. Et Calvin est en train de nous dire, si on n'a pas une relation de prière avec Jésus-Christ, on ne saura pas ce que veut dire la prédestination. Hein? Ce n'est que quelques petits chapitres dans un contexte global qui est énorme et où l'intérêt est axé ailleurs. Et pour Calvin, comme j'ai dit, ce qui est central est Jésus-Christ comme médiateur. Et c'est ceci la grande nouveauté de Calvin. Dans son siècle, l'Église était bien ancrée comme médiatrice du salut. Calvin propose à la place de l'Église Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pour Calvin, exerce comme sauveur trois fonctions, prophète, prêtre et roi. Et nous, unis avec Jésus-Christ, nous devenons prophète, prêtre et roi avec lui. C'est le sacerdoce universel de Martin Luther qui réapparaît ici. Et Jésus-Christ accomplit notre salut en étant notre prophète, prêtre et roi, et en nous donnant de grâce la justification et la sanctification. Ceci est le cœur de la théologie de Calvin. Christ médiateur, comment Christ nous a sauvés, comme prophète, prêtre et roi, et les résultats de ce salut, notre justification et notre sanctification. Et maintenant, pendant les quelques minutes qui restent de cette conférence, nous allons voir comment ces choses fonctionnent dans la pensée de Calvin, comment la médiation fonctionne pour Jean Calvin. Le médiateur est indispensable. J'ai parlé tout à l'heure de l'institution chrétienne, livre 2, chapitre 12, et vous voyez ici les mots médiateur, les mots intermédiaire qui sont utilisés. Et voici, pour Calvin, nous ne pouvons pas connaître Dieu sans Jésus-Christ. Nous pouvons même nous approcher de Dieu sans le médiateur. Et comment Jésus-Christ est-il médiateur? Calvin insiste non pas sur la nature, sur la personne de Jésus-Christ, mais sur ce que Christ a fait. Et là où Christ s'est trouvé dans le plan de salut. Christ se trouve dans le plan de salut entre Dieu et nous. Et il est le seul à occuper cette position. Si Dieu veut nous parler, il nous parle par Jésus-Christ. Dans l'Ancien et Nouveau Testament. Si nous voulons connaître Dieu, nous le connaissons par Jésus-Christ et pas ailleurs. Christ est le médiateur indispensable pour deux raisons, selon Calvin. En premier lieu, parce que s'il existe un Dieu, ce Dieu est tellement plus grand que nous, il est infini, nous sommes finis, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu pour le connaître. Nous sommes devant Dieu comme des fourmis devant des êtres humains. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu davantage que le fourmi comprendre ce que vous êtes en train de faire quand vous êtes en train de prendre un pastis sur votre patio. Hein? Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Mais en plus, nous sommes pécheurs, donc nous sommes révoltés, rebelles contre Dieu. Nous détestons l'idée de Dieu. Nous fuyons Dieu. Et donc, il faut que Dieu s'approche de nous. Il y a de la tendresse, de l'affection, de la sympathie incroyable dans la théologie de Calvin Parce que, alors que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, Dieu descend jusqu'à nous. Et Calvin dit de façon répétée, Dieu descend jusque près de nous et il nous prend par la main pour nous conduire à Dieu. C'est ça que fait Jésus-Christ, selon Calvin. Il s'abaisse jusqu'au niveau où nous sommes dans notre humanité et dans notre péché et il nous prend pour nous conduire à Dieu. Hein? Voici, sa médiation est donc indispensable. Et voici ce que Calvin écrit au début de ce chapitre 12. Il était de la plus grande importance pour nous que celui qui devait être notre médiateur soit vrai Dieu et vrai homme. Le Père, qui est toute clémence et toute bonté, a fait ce qu'il savait nous être le plus utile, puisque nos péchés, qui avaient placé un gros nuage entre lui et nous, ce qui nous empêchait de nous approcher de lui, nous avaient entièrement aliénés du royaume des cieux, personne, sauf si elle lui était proche, ne pouvait être le moyen de notre réconciliation. Nous ne sommes pas assez proches. Il faut quelqu'un de proche. Qui est cette personne? Qui répondait à cette condition? Quelqu'un parmi les fils d'Adam? Un autre être humain? Non. Tous avec leur peur avaient en horreur la haute majesté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons peur de la mort et nous avons peur de rencontrer Dieu. Un des anges aurait-il suffi, mais tous avaient besoin d'un chef par l'intermédiaire duquel ils seraient encouragés à rester constants dans leur adhésion à Dieu. Les anges sont des créatures comme nous. Il n'y avait donc aucune solution à une situation désespérée, à moins que la majesté de Dieu ne s'abaisse jusqu'à nous, puisqu'il n'était pas en notre pouvoir de nous élever jusqu'à elle. Hein? C'est magnifique. Hein? Il n'y avait aucune solution à une situation d'espérer. C'est ma situation, c'est votre situation sans Jésus-Christ. À moins que la majesté de Dieu ne s'abaisse jusqu'à nous, puisqu'il n'était pas en notre pouvoir de monter jusqu'à à elle. Dieu descend, nous ne pouvons pas monter, mais au milieu, il y a Jésus-Christ, ce chef par l'intermédiaire duquel nous pouvons connaître Dieu et entrer en contact avec Dieu et vivre dans la liberté et la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Alors, quelques chapitres plus tard, Calvin parle dans une phrase qui vaut presque la longueur d'une phrase de Proust, mais pas tout à fait. Calvin parle du résultat de l'intervention du médiateur. Qu'est-ce que Christ a fait en tant que médiateur? Et j'ai travaillé deux heures et demie, trois heures sur cette phrase pour bien le rendre avec ma collègue. Mais une fois que j'ai compris la structure littéraire de la phrase, j'ai compris que la structure littéraire de la phrase correspond à la structure théologique de la phrase. Et donc, je l'ai disposé ainsi. Nous avons ici, en haut, la proposition. Si nous apprenons, comme l'Écriture enseigne, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons quel est notre besoin. Et puis, au milieu, littérairement et théologiquement, mais Jésus-Christ intervient. Et puis, le résultat de ce que Christ a fait, et le résultat de ce que Christ a fait correspond à notre besoin dans le premier paragraphe, ou la première longue phrase. Et puis, comment nous répondons à cela? Par l'émotion, par la gratitude. Quand nous comprenons cela, c'est quelque chose de remarquable que nous avons compris sur notre personne, et sur notre relation à Dieu. Si une personne apprend, comme l'Écriture l'enseigne, qu'elle a séparé de Dieu par le péché, qu'elle a hérité de la mort éternelle, qu'elle est sujette à la malédiction et n'a aucun espoir du salut, qu'elle est bannie de toute grâce de la part de Dieu, qu'elle est esclave de Satan, captive et prisonnière du péché, et qu'elle est destinée à une ruine horrible et à la confusion. C'est là notre condition. Et Calvin, ici, reprend beaucoup le langage de Martin Luther sur la condition humaine. C'est là notre condition. Nous sommes dans le désarroi. Mais que Jésus-Christ est intervenu. Voici les mots les plus importants de l'histoire. Nous sommes ce que nous sommes, mais Jésus-Christ est intervenu. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui le châtiment qui était préparé pour les pécheurs par le juste jugement de Dieu, qu'il a effacé et aboli par son sang les péchés qui avaient été la cause de l'inimitié qu'il y a entre Dieu et les hommes, et que par ce paiement, Dieu a été satisfait et sa colère s'est apaisée, que tel sont le fondement sur lequel s'appuie l'amour que Dieu nous porte et le lien qui nous maintient dans sa bienveillance et dans sa grâce. Autrement dit, la position qui est la nôtre, Jésus-Christ l'a assumée. Et il l'a assumée en assumant notre mort. Non seulement notre condition humaine, mais aussi le châtiment qui était le nôtre et la mort qui est la nôtre. Cela, Jésus-Christ l'a assumé par l'amour de Dieu pour nous. Cela n'émouvra-t-il pas davantage cette personne, puisque ces mots expriment beaucoup mieux la calamité dont Dieu nous a retirés. Donc, voici l'intention de Calvin. Nous sommes dans une situation calamiteuse. Dieu a agi en Christ pour nous en retirer, pour nous redonner les vies que nous avons bradées et perdues. Et puis, Calvin nous présente une explication de ce salut, de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Et Jésus-Christ exerce trois offices ou trois fonctions où il fait trois choses pour nous sauver. Et ces notions des trois offices, c'est une innovation de Calvin. C'est une nouveauté. Tous les pères de l'Église et Martin Luther parlent de la fonction de Jésus-Christ comme roi et comme prêtre. Calvin utilise et ajoute la notion de prophète. Pourquoi ces trois offices pour Calvin? Parce que Calvin était très frappé par les trois offices de l'Ancien Testament, mais aussi par le fait que Jésus-Christ accomplit ces trois offices. Et Jésus-Christ lui-même le résume, et Calvin l'indique dans son commentaire sur Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin », oui, c'est le rôle sacerdotal, le rôle de Christ comme prêtre. Le prêtre est celui qui prend le chemin dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, avec le sacrifice pour le péché. Je suis le chemin. Jésus-Christ est notre grand prêtre. Je suis la vérité. Jésus-Christ est notre prophète. Il est notre vérité. Et Jésus-Christ est la vie. Il est notre roi qui nous donne la vie et qui règne sur nos vies. Et vous voyez, ces trois citations viennent du catéchisme de Genève, écrit par Calvin vers 1540, quand il était toujours assez jeune. Et il définit le rôle de Christ comme prophète. Jésus-Christ avait mission de réaliser pleinement le dessein du Père et d'accomplir ainsi toutes les révélations et toutes les prophéties pour nous. Le rôle de Christ comme prêtre est de se tenir devant Dieu pour obtenir sa grâce, d'apaiser sa colère par l'offrande d'un sacrifice qui lui soit acceptable. Jésus-Christ est à la fois le prêtre et l'offrande. Et Jésus-Christ est roi ce règne est spirituel, celui de la parole et de l'Esprit de Dieu, qui apporte avec eux justice et vie. Voyez, non pas qui apporte avec eux vie, mais aussi justice et vie. La façon de vivre juste dans ce monde, c'est sous le règne de Jésus-Christ. Hein? Et c'est un règne spirituel par la parole et par l'esprit. Malheureusement, je pense que dans son époque, Calvin n'a pas suffisamment appliqué cette notion du règne spirituel de Jésus-Christ sur son peuple à sa notion de l'Église. Il ne pouvait pas. Autrement, il serait arrivé à la séparation entre l'Église et l'État. Et il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il était lié par le système politico-religieux de son époque. Mais s'il avait appliqué cela, il serait arrivé tout droit à la séparation entre l'Église et l'État. Parce que l'Église est là où règne la parole et l'Esprit de Jésus. Et Christ, par ce qu'il a fait, obtient pour nous une double grâce. Et c'est ici le centre vraiment de la pensée de Calvin sur le résultat de l'œuvre de Jésus-Christ comme médiateur. Et si vous comprenez ceci, vous comprenez pourquoi dans le protestantisme réformé, il y a tout au long de l'histoire des réveils. C'est à cause de la doctrine du Saint-Esprit et de la sanctification de Calvin. Hein? En communiant avec Jésus-Christ, nous recevons une double grâce. Voici la première grâce. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la justice de Christ et nous avons au ciel non un juge, mais un Père bien disposé. La première grâce, la réconciliation, c'est la grâce de la justification. Si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Nous avons toute la justice dont nous avons besoin en Jésus-Christ, qui est pour nous. Mais la seconde grâce, c'est que nous sommes sanctifiés. Et ceci est particulier à Calvin. Chez Martin Luther, il n'y a pas de doctrine de la sanctification. Parle simplement de l'amour de Dieu et de vivre selon l'amour de Dieu. Mais Calvin parle de la sanctification et du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que des théologiens ont dit que Calvin est le théologien du Saint-Esprit. La seconde grâce, c'est que nous sommes sanctifiés par son esprit pour vivre une vie de sainteté et de justice. Voici encore la justice qui sort sa tête. En ce qui concerne la régénération, qui fait partie de la seconde grâce, j'en ai déjà dit ce qui me paraissait utile, c'est-à-dire dans un chapitre précédent. Alors, Calvin met en place une triangulation. À l'apex du triangle, il y a Jésus-Christ. Ici, il y a la justification. Là, il y a la sanctification. Si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes justifiés en Christ et nous sommes sanctifiés en Christ. Pour Calvin, il n'y a pas de croyants qui sont justifiés qui ne sont pas aussi sanctifiés et il n'y a pas de gens sanctifiés qui ne sont pas aussi justifiés. Mais ce n'est pas la justification et la sanctification qui sont importantes, c'est Jésus-Christ. C'est la double grâce qui vient de Jésus-Christ. Et ici, c'est le fondement vraiment du protestantisme et de tous ces mouvements que nous avons connus dans le protestantisme que nous appelons les réveils qui sont une recherche de la sainteté en Jésus-Christ. Mais la chose capitale, c'est que nous sommes unis avec Jésus-Christ. Quand Calvin parle de notre relation avec Jésus-Christ, il dit toujours, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes unis à Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes greffés en Jésus-Christ. Et Calvin utilise trois mots pour parler de notre relation à Jésus-Christ. Nous participons à la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien pour Calvin? C'est quelqu'un qui participe à la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand je me lève demain matin, je me dis, malgré ma dépression, mon découragement, malgré le fait que les choses ne vont pas dans ce monde comme je voudrais, je dis, je participe à la vie de Jésus-Christ, je vis de la vie de Jésus-Christ. Donc, il y a énormément d'amour pour moi auprès de Dieu, mon Père. Il y a énormément d'espérance pour moi en Jésus-Christ. Il y a énormément de foi à cause de ma relation avec Jésus-Christ. Le chrétien participe dans la vie de Jésus-Christ. Il est en Christ et Christ est en lui par le Saint-Esprit. Ceci est une vision exaltante de la vie humaine où on connaît toujours un renouveau, une transformation, une espérance. Le chrétien est celui, et voici une illustration d'un des livres de Calvin sur l'Ancien Testament. Vous voyez l'arbre de vie de la Genèse, c'est rien d'autre que Jésus-Christ. Voici le messager de l'Évangile qui tient en sa main le moyen par lequel les croyants sont greffés en Jésus-Christ pour venir partie de Jésus-Christ. Et donc, on participe à Jésus-Christ parce que par la parole et l'esprit, on est greffé en Jésus-Christ pour vivre en Jésus-Christ. Christ est donc celui qui vit pour Calvin et qui vit en moi. Et on peut dire qu'il y a ici un écho de la théologie de Paul. La vie que je vis, je la vis en Christ, je la vis par la foi en le Fils de Dieu qui s'est donné pour moi. Et donc, voici l'union avec Jésus-Christ. Et vous notez quel est le statut du chrétien ici. On est à Christ. Il faut que nous soyons à lui et qu'il habite en nous. Ceci est intime. Nous sommes greffés sur lui. Nous avons revêtu Christ. Nous sommes un avec lui. Nous jouissons de la présence de Christ et de tous ses biens, unis à Christ par la parole et l'esprit. C'est le privilège d'être enfant de Dieu en Jésus-Christ. Tout d'abord, dit Calvin, et c'est ici le premier chapitre dans le livre 3, cette grande section sur le salut de l'individu et la vie chrétienne pour l'individu. Tout d'abord, il est clair que tant que nous ne sommes pas à Christ, tout ce qu'il a fait, nous souffert pour le salut des hommes, est dépourvu de sens et d'utilité pour nous. Pour que nous bénéficions des biens dont le Père l'a comblé, il faut que nous soyons à lui et qu'il habite en nous. Voici la mystique calviniste. Il faut que nous soyons à lui et qu'il habite en nous. Il faut que je sois à lui. Si je ne suis pas à lui, si je ne suis pas à Christ, je perds la plus grande chose dans ma vie. Je passe à côté de l'essentiel. C'est pourquoi Jésus-Christ est nommé notre chef et le premier-né de nombreux frères. Il est également indiqué ailleurs que nous avons été greffés sur lui et que nous avons revêtu Christ. Nous revêtons la vie de Jésus-Christ. Cependant, rien de ce qu'il possède n'est nôtre, comme nous l'avons dit, tant que nous ne sommes pas un avec lui. Tout ce qu'a Christ est à nous, si nous sommes à lui. Le Saint-Esprit, dans la puissance et l'action secrète, nous permet de jouir de la présence de Christ et de tous les biens. Voici donc le centre de la vie chrétienne pour Calvin, sa grande motivation et son grand souci. Et ici, nous arrivons maintenant à la fin et vous aurez l'occasion de poser quelques questions parce que j'ai assez longuement parlé. Il y a une dernière question. Calvin rompt avec la tradition de l'Église jusqu'alors. Pourquoi? Parce que je pense que le ministère prophétique de Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu adressé à nous et adressé à toute créature. Et si nous avons Jésus-Christ par sa parole, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre. Jésus-Christ nous rapproche de Dieu par sa parole. Et c'est le ministère de la parole de Jésus-Christ, la vérité de Jésus-Christ sur notre salut, qui est adressé à toute créature, qui fait que nous pouvons avoir la hardiesse pour entrer dans la présence de Dieu. Et la bonne nouvelle appelle chacun à reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur, et à entrer dans le royaume des cieux par la porte de la croix. Et donc le ministère prophétique est ce qui nous fait entrer dans la présence de Dieu par Jésus-Christ et par l'œuvre du Saint-Esprit, œuvrant dans nos vies avec la parole pour nous faire reconnaître que Jésus-Christ est notre prophète, notre prêtre et notre roi. Et ici, voici une exhortation pour nous tous, encore un portrait de Calvin par l'artiste Titien. La plupart des gens pensent que c'est bien Calvin, il en a les traits. Et vous savez, les réformateurs avaient des devises. Hein? Pour Martin Luther, c'était la rose et la croix. Hein? Et la rose, symbole de la beauté, et la croix, symbole de scandale et de la souffrance et la mort. Et par ce symbole, Luther dit, la beauté, la vraie beauté se trouve dans la croix de Jésus-Christ. Et donc, le rose et la croix étaient le symbole de Martin Luther. Pour Calvin, et ici nous voyons le virage vers l'individu aussi. C'est la main qui porte le cœur. Hein? Avec en latin, qui est aussi français, prompt et sincère, voici Seigneur, mon cœur, je te l'offre promptement et sincèrement. Et le message de Calvin, qui est central, est celui qui a vraiment compris ce que Jésus-Christ a fait pour lui ou elle, apporte son cœur à Dieu en reconnaissance et en toute sincérité et s'offre à Dieu en gratitude. Et je pense que c'est cela que Calvin a cherché à faire toute sa vie. Bien sûr, il a fait des erreurs. Il a fait des choses qui sont injustes. Il a fait des erreurs et il a pris des décisions qui sont parfois inacceptables pour nous. Mais ce qui est important n'est pas ce que Calvin a fait, c'est l'attitude de Calvin. Et nous sommes invités par son attitude de nous poser la question de notre relation avec Dieu. Est-ce que notre cœur est à Dieu, à Jésus-Christ? Est-ce que là, notre espérance? Et ça, c'est le message de Calvin. Merci.
Merci Monsieur Wells pour ce bel exposé sur la théologie de Calvin qui nous permet de recentrer cette théologie sur le Christ médiateur. Et maintenant, si certains d'entre vous donc ont des questions à poser à Monsieur Wells, soyez libres de le faire.
Faut parler bien fortement, hein.
Alors François Ier, qui était donc un auteur, c'est vrai, était quand même un roi qui était intelligent et cultivé. Il avait dans son entourage en particulier sa sœur qui était favorable aux idées de la réforme. Et on ne peut que regretter qu'il y ait eu aussi des influences néfastes pour le faire basculer. Et d'un côté un peu anti.
Oui. C'est vrai que. Ce qui est vraiment dommage, je pense, pour la France, c'est que dans une période où la chose aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre, la chose a basculé dans le mauvais sens. Hein? Et ceci est peut-être compréhensible parce que les moyens de communication, les difficultés de transport étant ce qu'ils étaient à l'époque, les monarques trouvaient tous les moyens à leur disposition de créer l'unité de leur pays. Hein? Et je pense que par la suite, l'exemple de ce qui s'est passé en Angleterre a été un découragement aussi pour les rois de France. Et après François Ier, à cause de l'influence des Médici en particulier, les choses ont allé dans le mauvais sens. Mais vous savez, moi, je ne suis pas historien, donc je ne peux pas vous donner plein de satisfaction par rapport à votre question. Hein. Je pense que c'est dommage pour la France et pour la liberté en France que les choses ont pris ce tournant, hein, qui était peut-être inévitable à l'époque.
Oui. Pourquoi les hommes opposés à Calvin l'ont attaqué sur la prédestination?
Il y a un homme qui a attaqué Calvin sur la prédestination qui s'appelle Bolsec. Hein? Et c'est avant tout lui qui n'accepte pas les idées de Calvin. Et c'est peut-être une question d'ambition personnelle aussi. À cause de son opposition à Calvin, vous voyez... Bolsec était devant le consistoire des pasteurs de Genève. Il était en train de démolir Calvin à coup de canon. Calvin n'était pas là. Calvin est entré dans la réunion de façon cachée, secrète, et il a entendu ce que Bolsec disait contre lui. Et alors, Calvin a fait expulser Bolsec de Genève. Et c'est Bolsec qui a, par la suite, écrit beaucoup de choses sur Calvin qui sont de caractère imaginaire. Mais ce n'est pas à cause de la prédestination qu'on s'est opposé à Calvin. Parce qu'il faut savoir que Martin Luther, la doctrine de la prédestination de Luther est encore plus stricte et plus angulaire que la doctrine de Calvin. Le Calvin a une doctrine arrondie à côté de Luther. Alors tout le monde pense que Luther est sympathique, mais sa doctrine de la prédestination est plus dure que la doctrine de Calvin. Hein? Mais je pense qu'ici aussi, toute personne qui parle de la prédestination, avant tout, à notre époque, comme par le passé, bute contre les notions de la liberté humaine et du statut de la liberté humaine. Je pense que c'est pour cette raison qu'il y a toujours une opposition contre la doctrine de la prédestination. C'est donc quelque chose de profondément humain. Moi, je ne croyais pas du tout à la prédestination. Je suis arrivé à cela par ma lecture de l'Écriture. Mais naturellement, ce n'était pas du tout l'idée que j'avais de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la prédestination? La prédestination, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ. Hein? C'est ça, la prédestination. Et nous tendons à oublier cela qui est central et à centrer le débat sur des questions de liberté humaine. Hein? Donc, la question est complexe. Oui. Oui?
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des graves problèmes par rapport à Rome, tels que ont eu les hérétiques, les cathares?
Eh bien, faut se rendre compte un peu de la situation aussi. Quand Martin Luther et Calvin et les réformateurs se sont opposés à Rome, ils se sont opposés à un système monolithique, hein, à un pouvoir unique où le social et le religieux et le politique marchaient tous ensemble. Et pour Calvin et Luther, s'opposer à l'Église, c'était combattre un dinosaure avec les flèches. Hein. Et il a fallu un courage énorme. Pourquoi Calvin et Luther ont pris position contre les Anabaptistes? Parce qu'ils savaient très bien que s'ils se mettaient du côté des Anabaptistes, considérés anarchiques et séditieux, ils perdraient la protection des princes qui les soutenaient. Et c'est parce qu'il y avait un prince qui a soutenu Luther, et parce que Genève a soutenu Calvin, et parce que le peuple écossais a soutenu John Knox, c'est à cause de ce soutien populaire que la Réformation a pu continuer. Et donc, les réformateurs étaient protégés ou par le peuple de Genève ou par l'électeur de Saxe pour les réformateurs en Allemagne ou après Henri VIII par le roi d'Angleterre. Et en Écosse, John Knox avait une lutte contre Mary Stuart incroyable pour avoir la liberté. Mais il était soutenu par le peuple écossais. Donc, tout cela s'est passé dans beaucoup de confusion. Hein? Et je pense que si... Les monarques de l'époque n'avaient pas soutenu les réformateurs, la réforme serait étouffée dans l'œuf. Hein. Donc, ils devaient bien jouer la carte avec prudence. Donc, Calvin, quand il parle de la liberté et de résister au pouvoir hindou, il prend des risques, hein. Il prend de grands risques. Autre question? Oui, vous êtes bien loin. Il y a deux personnes là. Voilà, choisissez l'ordre que vous voulez.
Lorsque j'étais étudiant à la faculté d'Aix-en-Provence, il y a plus de 7 ans, j'ai eu le professeur Léonard qui m'a dit qu'à la fin de sa vie, Calvin était atteint de 7 maladies mortelles. Et je voudrais savoir s'il a demandé la visite des anciennes églises avec l'onction d'huile, l'imposition des mains, comme c'est recommandé dans l'Église de Chartres.
Laissez-moi penser. Je ne pense pas. Je pense que Calvin est contre les cérémonies privées. Hein? Pour Calvin, ceci doit se passer dans le contexte de l'Église, dans un certain ordre. Et il faut que je vérifie, je n'ai pas ça en tête maintenant, mais je pense que... Calvin pensait que l'imposition des mains n'était pas pour les cas de guérison. Hein. Mais il faudrait que je vérifie. Je sais que j'ai traduit cela, mais je ne l'ai pas en tête maintenant. Hein. Vous voyez, mon cerveau est bien limité comme le vôtre. Hein. Excusez-moi. Oui, votre collègue derrière. Plus de... Plus personne aujourd'hui? Ah! C'est une bonne question. Mais ma réponse serait que nous avons perdu l'évangile de Calvin sur la justification et la sanctification. dans les églises protestantes. Il y a une semaine, j'étais dans une église protestante où j'ai fait une conférence sur la justification chez Calvin, et le pasteur de l'église m'a dit, dans nos églises protestantes, nous avons...